Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 14.
Il y a tant de lieux importants dans nos vies. La maison, le bureau, le café du coin, notre librairie préférée, le chalet, le parc.
Tous ces points sont reliés entre eux par les chemins que nous parcourons.
Dans ce 14e épisode, Aube s'est penché sur les trajets que nous empruntons, les moyens de transport à adopter pour les parcourir et les coins de rue agréables où nous choisissons de nous arrêter.
Entre autres, on vous présente un parcours sur les routes de campagne pour découvrir les produits du terroir.
Une entrevue avec Alexandre Coupal de l'émission Une fois c'est une rue.
Un voyage à bord de l'autobus 66.
Et des idées de recettes pour votre prochain cocktail transport.
Tout ça accompagné de musique, de poésie et d'humour.
Bref, de tout ce que vous avez besoin pour un voyage d'une heure avec Aube.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé, route. Le matin, quand je sors de chez nous, je prends la première rue qui m'emmène au cœur du village. J'y vais à pied. C'est plus relax. Ça me permet de passer par le parc, puis d'arrêter prendre un café au coin de la première rue, puis de la rue principale. Assis sur le petit banc au coin de la rue, je sirote mon allongée tranquillement en regardant les autres citoyens arriver par les petites artères qui se déversent tranquillement sur la rue principale. Moi, je joue à imaginer d'où ils arrivent, en attendant Simon. Simon, c'est lui qui m'a recruté comme chauffeur de la Société des Transports en collaboration. Lui, il conduit un petit pédalobus qui relie les petits villages entre eux jusqu'au terminus au pied de la montagne, où le boulevard prend sa source puis descend jusqu'au centre-ville. Le pédalobus de Simon est jamais en retard, c'est sa fierté. Peu importe qu'il soit le premier voyage de la journée et qu'il soit pas beaucoup à pédaler. Comme tous les jours, 5 minutes avant l'heure, Simon arrive. Je m'installe à côté de lui, je me mets à pédaler. À partir du troisième arrêt, on commence à être assez de monde pour que le pédalobus avance sans que personne ait besoin de forcer. Ça tombe bien, parce que Mme Simard embarque toujours au quatrième arrêt. À 90 ans, Mme Simard est encore en pleine forme. Mais elle est toute petite, puis ses pieds rejoignent à peine les pédales. Comme tout le monde qui prend le transport en collaboration, elle fait son effort. Mais les journées comme aujourd'hui, quand il fait beau puis il y a des pédaleurs en masse, Mme Simard vient s'asseoir entre moi puis Simon, puis elle nous lit les nouvelles dans le journal. Quand elle arrive à la page de l'horoscope, Mme Simard sonne la petite cloche pour débarquer. Je lui demande toujours de me dire qu'est-ce que ma journée me réserve, mais elle me dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle est attendue quelque part. Je me demande bien où la petite Mme Simard de 90 ans peut être attendue chaque matin. On poursuit notre route dans le pédalobus de Simon de village en village. Les pédaleurs embarquent puis débarquent. La majorité reste avec nous jusqu'au terminus de la montagne. C'est là que je débarque moi aussi. Je dis au revoir à Simon, qui reprend son chemin dans le sens inverse. Je lui donne une petite poussée pour l'aider à repartir, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de pédaleurs dans son pédalobus. Puis je me rends jusqu'au garage pour prendre mon cyclotrain. Quand j'ai commencé à conduire des cyclotrains pour la Société de transport en collaboration, la technologie n'était pas trop au point. Il n'y avait pas de ventilation, pas de petit moteur électrique pour nous aider dans les côtes. Fallait vraiment que tu veuilles aller en ville. Mais aujourd'hui, relier nos petits villages où on habite puis le cœur de la ville qui bouillonne de créativité, c'est un jeu d'enfant. En arrivant, je déploie les panneaux solaires. Ça charge un petit peu la batterie. Je pédale un petit coup pour donner un premier kick, puis je pars. Au premier arrêt, le cyclotrain se remplit déjà à moitié. À gang, on n'a plus besoin du moteur électrique. Par le troisième ou quatrième arrêt, on a comme pogné le beat. Les pédaleurs peuvent déjà commencer à relaxer. J'aime ça faire la run du boulevard, parce qu'il y a toujours plein de monde dans le cyclotrain. Ça fait que les enfants puis les personnes âgées n'ont pas besoin de pédaler trop fort. C'est sûr que le principe du transport en collaboration, c'est que tout le monde collabore, justement. Mais je préfère quand il y a suffisamment de jeunes adultes qui embarquent pour que les autres puissent prendre ça un petit peu plus mollo. Juste avant de descendre la grande côte qui mène au cœur de la ville, j'embarque Arthur. La première fois que j'ai embarqué Arthur, il y avait une face de gars qui n'avait pas dormi de la nuit, puis un gros sourire de matin de Noël. Depuis ce matin-là, je le vois tout le temps. Toujours le même arrêt, toujours le même sourire. Je pense qu'Arthur est amoureux. On descend la grande côte jusqu'à la grande place au cœur de la ville, où tout le monde débarque puis vaque à ses occupations. Moi, j'ai plus d'obligations jusqu'à la fin de la journée. j'en profite pour aller au musée. Au musée de l'automobile. Moi, ça me fascine, cette machine-là. Ben tiens, juste son nom. Le suffixe « mobile », qui fait référence au déplacement, mais le préfixe « auto », qui fait référence à « tout seul avec soi-même ». Aujourd'hui, ça paraît évident que c'est pas pratique de se déplacer seul. On est bien mieux de se mettre en gang. Ça demande bien moins d'énergie. Dans un cyclotrain comme le mien, il rentre presque 1000 pédaleurs, alors que ça prend 1000 automobiles pour déplacer autant de monde. Ils disent que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je suppose que dans le temps de l'automobile, ils voulaient aller vite. Maintenant, je suppose qu'on veut aller plus loin. Après ma visite au musée, je retourne à mon cyclotrain. En fin de journée comme ça, le cyclotrain se remplit tranquillement. On attend d'être assez pour partir, parce qu'il faut monter la côte. C'est sûr qu'on a le petit moteur électrique pour nous aider, mais on sait qu'on va être beaucoup à vouloir rentrer, alors ça sert à rien de voyager vide. Le chemin du retour est toujours très silencieux. Le soleil se couche tranquillement pendant qu'on réfléchit à notre aventure de la journée. En arrivant au terminus du boulevard, on va tout le monde reprendre les pédales au bus pour retourner tranquillement dans nos cœurs de village. À partir de nos rues principales, on va tout le monde reprendre nos petits détours pour rentrer tranquillement jusqu'à la maison. On sait qu'il nous reste encore pas mal de chemin à faire, mais on peut être fier du chemin parcouru.
Transport? L'adaptation à la vie urbaine est un défi. Comment devenir efficace et rapide sans devenir esclave de l'automobile ou du pétrole? L'utilisation de plusieurs sources de transport comme le vélo, le taxi, la marche, l'autobus, Communauto et le métro peuvent transformer vos heures d'embouteillage en occasion de lecture et de détente. L'automobile représente un des plus grands défis que l'humanité aura à surmonter dans les prochaines décennies. Avoir une auto, c'est vraiment super pratique. Mais pourquoi avoir son auto? Le propriétaire moyen d'un véhicule moyen dépense plusieurs milliers de dollars pour l'entretien et le déplacement de son véhicule. Que ce soit pour payer l'essence, les assurances, les changements de huile, les souliers, les pneus d'hiver, etc. Premier moyen de transport que l'on va explorer ici, le vélo d'hiver, avec notamment un psychopathe de la bicyclette, Philippe Laramé. Témoignage.
Certes, il n'y a pas autant de cyclistes l'hiver que l'été, mais cette minorité qui ose braver le froid et les rigueurs hivernales sont autant d'autonombristes qui n'encombrent pas les réseaux routiers. Il suffit d'avoir des pneus adaptés, première des choses, d'équiper son vélo en éclairage et garde-boue, de faire attention au gel sur les freins et d'adapter son habillement, tout simplement. Le vélo 4 saisons est en plein essor au Québec, alors pourquoi pas vous? Vélo Québec est un site web en plus d'être un organisme qui vous apportera beaucoup d'informations à ce sujet. Il est aussi possible de transporter son vélo dans la première rame de métro, le wagon de tête. Par contre, les vélos ne peuvent prendre le métro pendant les heures de pointe, sauf si vous avez un vélo pliant.
Autre trouvaille, Philippe, le vélo-taxi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bon, le concept du vélo-taxi permet aux cyclistes de profiter de leur moyen de locomotion préféré à tout moment de l'année, quelles que soient les conditions climatiques. Chaque course de taxi coûte 3$ de plus par vélo. Un support à vélo peut contenir jusqu'à 3 vélos. Il existe aussi, peut-être une petite parenthèse comme ça, un petit manuel du cycliste urbain. Dans ce petit guide, vous trouverez des trucs pratiques ainsi que des conseils sur l'usage du vélo en milieu urbain. Vous pouvez consulter encore une fois le site de Vélo Québec pour plus de détails ou la page Facebook de Vélo d'hiver Montréal.
Les transports en commun maintenant. L'infrastructure de transport en commun est trop bien développée pour être obligé d'avoir recours à son automobile en ville. De plus, ce qu'on sait moins, c'est la quantité incroyable d'avantages et de réductions dont on peut bénéficier quand on a la carte Opus, que ce soit des réductions pour aller chez Aquasirène, une école de sirène, à l'OSM ou bien encore au Biodôme. La STM a également mis en place un système de taxi-bus qui permet d'aller dans des endroits reculés et peu ou pas desservis par le réseau régulier, surtout le soir. Uber. Et oui, le système fait grincer des dents les taxis réguliers car c'est une sorte de Airbnb de taxi qui met en relation des taximans amateurs et des clients via une simple application pour téléphone intelligent. Pour les plus longues distances, il y a Allostop, une entreprise spécialisée dans le covoiturage. Amigo Express, a développé son offre et s'adapte aux besoins des consommateurs qui bougent parfois dans des endroits très reculés ou s'en vont pour des événements bien précis. Ainsi, Amigo Express est relié directement au Festival des musiques émergentes de Rouyn-Noranda en Abitibi. L'inscription en tant qu'automobiliste ou passager est gratuite, mais vous avez un frais qui s'ajoute à chacune de vos réservations, 5$ pour Amigo Express. Pour donner une petite idée des tarifs comme ça, aller à Québec à partir de Montréal, ça vous coûtera environ 15$. Tandis que pour aller à Sherbrooke, il n'en coûte que 9$ et 30$ pour aller au Saguenay. Rien à voir donc avec les tarifs de bus ou de train. Et en plus, vous avez la grande possibilité de rencontrer des gens intéressants lors de votre voyage. Comme une auto maintenant. L'entreprise met des automobiles à la disposition de ses membres via des stationnements disséminés un petit peu partout dans les principales villes québécoises. Les membres peuvent réserver une auto à toute heure du jour via Internet. La durée de la location est fixée par l'utilisateur, que ce soit pour une heure, une journée ou pour une plus longue durée. Une fois l'automobile réservée, le membre peut aller au stationnement indiqué pour prendre possession du véhicule. Communauto s'occupe de tous les frais relatifs à ces véhicules, comprenant l'essence, l'immatriculation, les assurances, les réparations. Si vous avez des déboursés à faire pendant le trajet, notamment pour l'essence, ils vous sont crédités sur le montant de votre facture mensuelle. Autant de soucis en moins. En tant que membre de Communauto, vous êtes automatiquement membre de Allostop en tant que conducteur. Cerise sur le Sunday, vous avez ainsi la possibilité de vous faire payer pour louer une voiture. En mode véhicule en libre-service et zéro entretien, n'oublions pas les fameux Bixi. À défaut d'être très aérodynamiques et profilés, ceux-ci n'en sont pas moins très pratiques pour se déplacer d'un point à un autre sans avoir la crainte de se faire voler en partie ou entièrement son précieux vélo. Car2Go, de son côté, est une sorte de Bixi de l'automobile urbain, mais sans implantation fixe. Réservez votre voiturette, repérez son emplacement via géolocalisation sur votre smartphone, empruntez-la et arrivez à l'heure à votre rendez-vous galant. Vous laissez à votre arrivée la voiture et la fermez avec votre clé spéciale. That's it. Alors, marcher, c'est la santé. Combien de personnes détestent marcher pour cause d'un mauvais équipement ? Pour apprécier les subtilités de la marche, il faut être équipé. Un bon sac à dos pour avoir les mains libres, quelques sacs de coton pour vos emplettes et surtout de bons souliers. Après avoir marché un hiver entier pour aller à mon travail, j'ai constaté que j'étais moins déprimée, que je n'avais pas été malade et que j'avais gardé un corps en forme. Il existe de très nombreuses alternatives au transport conventionnel. Il s'agit d'évaluer ses besoins, ses capacités, ses envies et de changer sa façon de considérer ses déplacements. Des solutions existent, il suffit juste de les connaître.
Un texte de Philippe Laramé tiré de Aube, recueil de solutions, repimpé par Aurélie Suberchico. I think it's time to blow this scene, get everybody in the stuff together.
Dans cette rue, il y avait des Espagnols qui n'osaient pas montrer qu'ils étaient de vieux réfugiés qui avaient fui les cons et les rois. Dans cette rue, il y avait des Français qui n'avaient pas de chance. Ils ont écrit « Vive la France » au fronton de leur maison. Dans cette rue, il y avait des Portugais fiers comme les geôliers de la misère, quelques arbres fruitiers et la pudeur de la terre. C'était ma rue, ma famille, les mamans du Ségotier. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles, le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma Bastille, c'était ma rue. Dans cette rue y'avait l'Afrique et son mea culpa, d'avoir un autre dieu je crois. Dans cette rue y'avait tous les ouvriers de la terre. Ils ont construit des pétataires qui n'habiteront jamais. Dans cette rue y'avait des caravanes comme des chariots de la colère, en vapeur de l'hiver, de la fureur de la terre. C'était ma rue, ma famille, les mamans du Ségosille. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles, le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma Bastille, c'était ma rue.
dans cette rue, je crois. Les enfants n'étaient pas de glace quand passait le camion de glace.
On tirait des langues étrangères.
On était dans les bois, on avait des arcs et des flèches, quand d'autres avaient des cannes à pêche. Mais l'école elle en veut pas. Un jour on s'est fâché, on a tout brûlé, on n'a pas eu peur de l'enfer. Quand on s'est réveillé derrière des barreaux en fer. Pour toi,
Marie, ma famille et les mamans qui s'égosillaient. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille et les petites qui frétillaient. Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles et les condés qui nous quadrillaient. Moi, c'était pas ma Bastille, c'était ma rue. Ma famille, les mamans qui s'égosillaient. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient. Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les comtés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les anguilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Moi c'était pas ma Bastille, c'était ma rue.
Ma rue, ma famille, les mamans qui s'égosillaient. C'était pas jouer aux billes.
Phil, moi ce qui me tanne le plus quand je me déplace d'un point A à un point B, c'est le temps entre les deux. Si seulement on pouvait se téléporter.
Guillaume, t'as rien compris je pense. L'important, c'est le voyage, pas la destination. Si t'étais un peu moins pressé, tu pourrais prendre les petites routes de campagne puis apprécier les jolis paysages.
Bonne bouffe, bonne route. Les produits du terroir au Québec, c'est des centaines de produits faits ici, avec des récoltes d'ici. Ils refont surface après une implantation en masse de produits importés, manufacturés, étiquetés et souvent surfabriqués. Une place s'ouvre pour un marché plus artisanal et convivial pour les consommateurs qui recherchent la qualité d'un savoir-faire parfois ancestral. Avec son livre « Les terroirs du Québec », Jacques Dorion nous amène faire un tour à la campagne. Voir des chemins nouveaux, sentir, goûter, toucher la boostifaille et entendre les gens là-bas parler avec passion de leur métier, de leurs produits. Monsieur Dorion a mis 3 ans à parcourir le Québec dans tous les sens pour nous faire découvrir 16 belles régions et d'incontournables produits. Plus de 800 photographies couleurs prises par l'auteur agrémentent l'ouvrage. Ça nous donne littéralement le goût de prendre la poudre d'escampette pour s'ouvrir à une culture qui ne demande qu'à se développer. La présentation par région permet de faire une recherche d'itinéraire simple. De plus, les coups de cœur de l'auteur sont très utiles pour les voyageurs gastronomes pressés. Pour chaque région, une petite présentation historique et culturelle invite le lecteur à en apprendre davantage. De plus, entre les chapitres, des articles sur différents sujets nous informent sur les produits du terroir au Québec. Entre autres, l'agriculture biologique, savoir faire la différence entre produits maison, produits fermiers et produits régionaux, la popularité grandissante du terroir et plusieurs autres sujets très intéressants sont abordés dans ce livre. Parmi les produits présentés tout au long de l'ouvrage, on retrouve produits de l'érable, cidre, vin, fromage, poisson, pain artisanaux, dindons, moutons, agneaux, hydromel, chocolat et j'en passe. Les terroirs du Québec est un guide agro-touristique qui invite grands et petits à déguster le Québec tant par ses textes que par ses images aux couleurs vives. Un must pour les gourmands.
Un texte de Julie Francoeur, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Sophie-Claudia Ouellet.
Tout toutes les villes sont en fait d'anciens sites naturels qui ont subi de grandes transformations humaines. Et si la forêt originelle dans nos centres urbains est en grande partie détruite, il reste toutefois des vestiges qu'il vaut la peine d'explorer. Et afin de se sensibiliser à cette présence de la faune et de la flore au milieu de nos rues et de nos édifices en pierre, allons découvrir ensemble les espèces végétales et animales de la région forestière des Basses-Terres du Saint-Laurent qu'on retrouve dans la ville de Montréal. Même si la plupart des grands animaux ont migré vers les forêts extérieures, il reste tout de même quelques moyens et petits mammifères sur l'île et une très grande variété d'oiseaux. En étant une ville maritime, Montréal accueille sur ses rivages le rat musqué et la loutre et des oiseaux aquatiques ou semi-aquatiques comme le canard colvert, le canard d'Amérique, le grand héron, le goéland argenté et la bécassine des marais. On peut aussi retrouver à Montréal deux autres mammifères sauvages de taille moyenne qui vous sont probablement assez familiers. Ils sont essentiellement nocturnes et ils déambulent librement dans la ville. Il s'agit du putois, plus connu sous le nom de moufette, et du raton laveur. D'ailleurs, ce dernier s'est vu attribuer son nom au fait qu'il a l'habitude de nettoyer sa nourriture avec ses pattes avant de la manger. Ils sont tous deux de type omnivore, alors faites attention à vos poubelles. On retrouve ensuite dans la gamme des rongeurs l'écureuil gris de l'Est et le petit suisse, rongeur coloré et attrayant. Maintenant, pour enrichir notre atmosphère sonore et visuelle, on retrouve parmi la faune ornithologique montréalaise des espèces d'oiseaux assez communes comme le pigeon biset, la corneille d'Amérique, le moineau domestique et le merle d'Amérique. Mais on peut aussi observer des espèces plus rares et diversifiées comme le bruant familier, le roselin pourpré, le chardonneret jaune et l'hirondelle rustique. En réalité, le Mont-Royal et les grands parcs de la ville abritent une variété incroyable d'oiseaux. Et toutes ces espèces sauvages et leur habitat jouent un rôle crucial dans le processus écologique et biologique de notre environnement urbain. C'est donc primordial de préserver cette diversité animale qui nous entoure, malgré les espaces verts limités dans la ville. Maintenant, du côté forestier, la forêt des Basses-Terres du Saint-Laurent est une végétation mixte où l'on retrouve des conifères et des feuillus à fleurs et à fruits. De la forêt originelle, on retrouve un peu partout le thuya occidental, qui est un conifère de la famille du cyprès et qu'on appelle à tort le cèdre. C'est cet arbre qui a épargné la mort à l'équipage de Jacques Cartier atteint du scorbut, grâce à une tisane qui a été faite par les Iroquois à partir des feuilles et de l'écorce. Il y a aussi d'autres conifères qui poussent naturellement en ville, comme le mélèze, qui est d'ailleurs le seul conifère à perdre ses aiguilles à l'automne. Il y a aussi le pin blanc et rouge, l'épinette, le sapin qu'on utilise pour nos arbres de Noël, la pruche du Canada, dont la pointe supérieure sert de boussole parce que sa pointe supérieure est toujours penchée à l'ouest. Et dans la famille des feuillus, on retrouve entre autres plusieurs espèces d'érables, le frêne, les bouleaux, les chênes, peupliers et saules, ormes d'Amérique et j'en passe. On retrouve donc une grande variété faunique et végétale dans notre propre ville. Et d'ailleurs, je vous invite à ralentir votre rythme de citadin pour prendre le temps de contempler la nature qui vous entoure. Les arbres nous protègent du bruit que font les moteurs en absorbant le son, et les oiseaux produisent des sons qui insufflent la paix et l'harmonie à notre esprit. Alors, à nous de savoir prendre soin de ces trésors qui nous entourent et qui améliorent notre qualité de vie en préservant leur habitat et leur intégrité.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs.
Poésie de Victor Hugo.
vous vous promenez dans la rue. Vous ne savez pas quoi manger. Vous n'avez que quelques dollars en petit change. Eh bien, venez manger chez Pizza de Pourri.
Hey, Pizza!
Pour seulement 99 cents, vous avez full pâte, du glutamate monosodique en masse et un peu de fromage.
Hey, mais ça me frise les moustaches tout ça.
Chez Pizza de Pourri, nous nourrissons les pauvres et vidons leurs poches. Nous sommes fiers de contribuer à l'affaiblissement de la population. Pizza de Pourri!
Ouais, ça me frise les moustaches!
Un number 942, s'il vous plaît. Un number 942, s'il vous plaît. Un number 942, s'il vous plaît.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, vous avez entendu le monologue « Le transport en collaboration » de Guillaume Lambe.
Des conseils d'Aurélie pour votre prochain cocktail transport.
Bonne bouffe, bonne route pour votre prochain tour en campagne.
Et une invitation à prendre le temps avec Reprendre conscience de la forêt en ville.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, la perception du métro dans le cinéma.
Une entrevue avec Alexandre Coupal de l'émission Une fois c'est une rue.
Et un voyage à bord de l'autobus 66 de Boulevard, tiré de la chronique appelée En bout de ligne, produit pour l'émission L'Escouade M.
Et pour l'instant, voici Guillaume avec les nouvelles du front.
C'est le secteur du transport qui produit le plus d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. À lui seul, le transport routier représente 35 % des émissions totales. Cette réalité est semblable à bien des égards partout dans le monde, et il est impératif que nous développions de nouvelles stratégies de transport si nous souhaitons réellement limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés et éviter le dérèglement climatique potentiellement catastrophique. Heureusement, des solutions émergent et plusieurs citoyens s'impliquent afin de changer les choses. Ici Guillaume Lambe avec les nouvelles du front. D'abord, du côté des innovations technologiques. On annonçait tout récemment les premiers tests en Angleterre d'une route capable de recharger les véhicules électriques pendant qu'ils roulent. L'autonomie des batteries, principal obstacle à l'adoption des véhicules électriques, serait alors infinie. Quant à elle, la compagnie StoreDot travaille à la mise au point d'une batterie qu'on pourrait recharger en 5 minutes, soit moins de temps qu'il en faut pour faire un plein d'essence. De toute façon, si vous n'êtes qu'un conducteur moyen, la technologie de la voiture électrique vous conviendra déjà très bien. Il suffit de consulter le blog roulerelectrique.com pour vous en convaincre. Mais remplacer tous les véhicules existants par des véhicules électriques ne réglera pas le gaspillage de ressources qui va dans leur fabrication et les problèmes de circulation. Voilà pourquoi plusieurs initiatives de covoiturage et de partage de véhicules voient le jour. N'empêche que rien ne vaudra jamais le bon vieux vélo. Si on considère la consommation d'énergie par kilomètre, celui-ci termine loin devant tous les autres modes de transport, même la marche. Comparé à l'automobile, il est 33 fois plus efficace. Pourtant, la place du vélo sur les routes est toujours contestée, et le simple fait de se déplacer continue d'être un acte dangereux pour bon nombre de cyclistes partout dans le monde. En 2011, un animateur de radio de la ville de Québec imaginait la campagne « Let's honk a cyclist » qui invitait les automobilistes à s'approcher le plus près possible des cyclistes qu'ils croisaient et à les klaxonner pour leur faire peur. Je m'imagine suivi d'un de ses chauffeurs et de son véhicule de plusieurs tonnes sur ma petite bécane et j'en suis terrifié. En France, en 2013, les cyclistes ont été impliqués dans plus de 4000 accidents. De ce nombre, 147 sont décédés. Au Québec, les statistiques de 2012 recensent 1954 cyclistes victimes d'un accident de la route, dont 88 ont été gravement blessés et 13 sont décédés. Évidemment, on rappelle à tous d'être vigilants, mais on peut aussi se demander s'il n'est pas temps d'entreprendre une grande réflexion collective. Dans ce domaine, la ville de Copenhague donne l'exemple afin de rendre les déplacements à vélo simples, efficaces et sécuritaires pour tous. Les statistiques démontrent que 45 % des résidents de la région de Copenhague vont à l'école et au travail en vélo. Un taux qui monte jusqu'à 63 % chez les 600 000 résidents de la ville. Toujours sur le front de la sécurité de nos routes, un rapport de la ville de Montréal datant de 2005 rappelait que, à Montréal, environ 5 piétons par jour sont blessés légèrement, gravement ou mortellement suite à un accident sur le réseau routier. Évidemment, plusieurs initiatives sont mises de l'avant afin de rendre nos routes plus sécuritaires. On n'a qu'à penser aux plus récents aménagements dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. N'empêche qu'en 2014, 52 piétons ont perdu la vie au Québec. Il faudra donc compter sur l'engagement de chacun, afin de rendre nos rues plus sécuritaires et moins polluantes. Si certains optent pour l'autopartage, la voiture électrique ou le transport en commun, d'autres choisissent simplement de ralentir. Pour Aube, c'était Guillaume Lambe, avec les Nouvelles du Front.
Tu marches, moi j'suis en vélo. Tu cours, moi j'suis en vélo. J'force pas, j'suis en vélo. J'ride around sur mon vélo. Tu marches, moi j'suis en vélo. Tu cours, moi j'suis en vélo. J'force pas, j'suis en vélo. J'ride autour sur mon vélo. Tu marches, moi j'suis en vélo. Tu cours, moi j'suis en vélo. J'force pas, j'suis en vélo. J'ride autour sur mon vélo. Vélo, cours, moi j'suis en vélo. J'force pas, j'suis en vélo. J'ride around sur mon vélo. Tu marches, moi j'suis en vélo. Tu cours, moi j'suis en vélo. J'force pas, j'suis en vélo. J'ride around sur mon vélo. Tu marches, moi j'suis en vélo.
Dans la cohue du samedi après-midi, je me joins à la longue file d'hommes et de femmes qui attend patiemment le bus 66. Exactement à l'heure, une fois par heure, le 66 de Boulevard quitte le coin des rues de Maisonneuve et Guy, à deux pas du métro Guy Concordia. La ligne part du centre-ville de Montréal et traverse tranquillement les quartiers Westmount et Notre-Dame-de-Grâce jusqu'à la pointe ouest. Et moi, je vais en bout de ligne. Tous ensemble, on grimpe la rue Guy. Le moteur rugit et par les fenêtres, on peut voir les nombreux commerces. Le moteur rugit encore et le bus tourne sur la rue Dr. Penfield. Des maisons cossues et des entrées garnies de Mercedes se laissent regarder par les vitres de l'autobus. Sous un soleil éblouissant, le bus 66 grimpe sur le flanc ouest du Mont-Royal. Quelque part, de l'autre côté de la montagne, très très haut, existe un endroit dont j'ai entendu parler dans une berceuse. Un endroit extraordinaire, surplombant la ville. Un endroit où le ciel est bleu et les nuages loin, loin, loin de là. Vous avez tout compris. Le bus tourne sur The Boulevard. Et à partir de là, c'est merveilleux. C'est que le 66 emprunte une des rues les plus riches de la ville, desservie par le transport public, The Boulevard. Une voie étroite à double sens qui ondule doucement. Un bijou qui ne laisse pas indifférents les passagers du bus 66.
En fait, ce que j'aime bien, c'est que par rapport aux autres bus, tu passes en fait le temps à regarder les belles maisons, à rêvasser, puis c'est cool. Donc c'est ça.
Est-ce que vous rêvassez que vous habitez dans une de ces maisons-là?
Oh que oui. Les belles voitures, les belles maisons. Oh oui, oui, oui. Complètement oui.
C'est comme un jour, je vais voir une de ces Ferrari que je peux voir dans la ligne 66.
J'aimerais habiter là. Ouais, vraiment.
La ville de Westmount écrit sur son site internet qu'avec ses 11 000 arbres et ses innombrables pelouses et jardins soignés, Westmount est un véritable bijou, sirti au cœur du territoire métropolitain. Après les splendeurs de Westmount, le 66 fait son entrée sur Côte-Saint-Luc et amorce sa descente. Les énormes maisons font place à des tours d'appartements. On traverse le boulevard Descaries. Les commerces réapparaissent sur le bord de la route et on peut lire les mots pizza et nettoyeur. Les passagers se remettent à monter et descendre du bus. Rue Randall. Vous connaissez? Moi non plus. Des duplex, des triplex, des quadruplex. On traverse le boulevard Cavendish. On tourne encore sur la rue Chester. Vous connaissez? Moi non plus. Je me surprends à penser que je suis complètement désorientée. Je suis complètement perdue. Puis tout à coup, tout le monde descend. C'est le terminus. Et si je vous dis la rue Walkley. Vous connaissez? C'était Anne-Sophie Carpentier, quelque part NDG pour l'Escouade M.
Les boss de la ville, trop de peines font chier, je débosse parce que je file comme pas les jeunes mois pis leur arène de STM comme petit mac avec tes chaînes qui disent qui aiment. T'es culotte, je me suis pas rendu au chef, fallait que ça sorte. Tu trouves que le mec, tu crois que t'es dur, grosse pote, et là je capote. Tu mets une serviette, tu t'appelles, les dreads cernés, jaune de soie, t'es left, forget a few de tap, elle souhaite cerner l'odeur de pep. Assis dans le fond, le beat trop fort sur ton sel. T'es pas bon, va fit dehors ou je te gèle. Sors ce rack que je prouve assez, c'est speak et fun pas platinum. Par le track que je prouve assez, c'est speak et fun pas platinum. Oh shit, ton crew gets in the bus, brap. Tu skip rien que nous, ouais, c'est une gosse crap. Je vous dégope, toi pis ton boss parti. Keep it up, même pas des grosses pussies. Pourquoi tout le monde me fucking gosse in the bus? Pourquoi ça sent toujours le lendemain de brass in the bus? C'est pas possible que je reste docile, faut que je sorte s'il vous plaît, c'est mon arrêt, yeah. Pourquoi tout le monde me fucking gosse in the bus? Pourquoi ça sent toujours le lendemain de brass in the bus? C'est pas possible que je reste docile, faut que je sorte s'il vous plaît, c'est mon arrêt, yeah. Pas très frais, cette odeur que tu dégages. Parfum une raie pris dans une vente de garage. J'suis ta seule qui cache que du Jean-Paul Gaultier ça pue. Tu dégueules biatch puis tu sens meilleur tu caches-tu. Ton sac à bande ou gare masculin a l'air très chic. Mais ça que t'as trop hier, il sent qu'humain d'hier c'est sick. T'aurais pas dû tuler à Smirnoff Ice au drugstore. Pis barf et tu la blood G-fuck off lance le dehors. Tu t'aimes qu'autant que le gros qui est drette à côté de moi. C'est ce qui sent la paix près tout, j'sais pas trop quoi. J'te jure que s'il drop un autre colisse de rock à l'aile, une fâche assure un esprit pop sa gueule pis j'glisse une chlorette dans sa face. Si que ça me fait chier, crotter que tu m'imposes ton odeur, c'est pas compliqué. Que la vie demande à grosse douceur. T'sais, gros tom, offrit chillo, McDo ou skate tout le temps. Ok, c'est beau, c'est pas fébrile, je me lève ou je te laisse mon vent. Pourquoi tout le monde me fucking gosse in the bus? Pourquoi ça sent toujours le lendemain de brass in the bus? C'est pas possible que je reste docile, faut que je chope s'il vous plaît, c'est mon arrêt, yeah. Pourquoi tout le monde me fucking gosse in the bus? Pourquoi ça sent toujours le lendemain de brass in the bus? C'est pas possible que je reste docile, faut que je sorte s'il vous plaît, c'est mon arrêt, yeah. Pas très frais, le concept des bancs à deux places. Ça me déplaît de me coller sur un autre as. À toutes les fois je pognais à côté de la plus grosse bitch. Ils devraient pas les laisser rentrer, yo ma chose bitch. Y'a toujours un perdu qui ralentit le trajet. Le boss avance plus parce que le café s'est trompé d'arrêt. J'ai rien à crier, c'est que t'as 8 ans pis que tu saches pas t'es où. Arrête de broyer sacrament, marche un heure t'es chez vous. Pourquoi je te laisse pour ma place? C'est rough, je sais que j'suis dégueulasse. C'est pas ma faute si t'es vieux pis handicapé. Gosse quelqu'un d'autre, oh mon dieu, si tu me fais chier. J'm'en touche du Christ de boss. J'en louche dans le Christ de boss. J'claque des doigts pis everybody wants to give me a ride. So lève-toi pis come on everybody give me a ride. Pourquoi tout le monde me fucking gosse in the bus? Pourquoi ça sent toujours le lendemain de brass in the bus? C'est pas possible que je reste docile, faut que je sorte s'il vous plaît, c'est mon arrêt, yeah. Pourquoi tout le monde me fucking gosse in the bus? Pourquoi ça sent toujours le lendemain de brass in the bus? C'est pas possible que je reste docile, faut que je sorte s'il vous plaît, c'est mon arrêt, yeah.
Bon, allez, on y va, là!
Hey, il me semble qu'on est déjà passé par ici.
Tourne!
J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond, ici.
Mais roule! Roule, roule, roule!
J'ai surtout l'impression qu'on fait rien que ça, tourner à droite.
OK, encore la statue du maudit maire Hernandez.
Mais ça! Sixième, mais à droite!
OK, OK.
Mais continue! Fais demi-tour!
T'as pas téléchargé l'application Noodle, toi?
Oh, route! Mais tu vois bien les panneaux!
Ah!
T'as-tu vu le nid de poule?
Tourne!
Ça tourne plus à droite, à le comique.
Bon, OK, je pense qu'on est perdu.
Réception des satellites perdus!
Cul de sac.
Hey man, tu veux le métro?
Donc,
dans un pays froid et en contexte urbain comme à Montréal, évidemment, c'est le métro qui reste le moyen de transport privilégié. Les transports en commun n'ont pas une bonne image dans le cinéma québécois et sont, par opposition aux véhicules individuels, la voiture, la moto ou le vélo, anti-identitaires. Dans les autobus, on peut se battre comme dans Coyote 92 ou vivre des amours impossibles, Sonatine 84. On peut même disparaître à jamais quand on en sort, Continental, un film sans fusil. On y réfléchit, mélancolique, Suzy ou Loin du soleil en 2009. Le train de banlieue n'a pas une meilleure image. Le bonheur, c'est une chanson triste, 2004. Quand Anne-Marie le prend après une rencontre douce amère avec un ancien amoureux, ou encore dans L'âge des ténèbres, 2007, quand tous les passagers sont au téléphone cellulaire à l'exception de Jean-Marc et d'un homme endormi. Le métro, dans quelques films, est présenté comme un monde souterrain où l'on meurt, où on souffre, où on soupire. Et dans ce sens, c'est doublement un lieu de passage. Dans 32 août sur Terre, Philippe meurt à l'entrée du métro. Dans Sonatine, c'est à l'intérieur d'un wagon qu'on meurt. Et dans l'inoubliable Jésus de Montréal, 89, sur la voie d'embarquement où agonise notre Jésus, si magnifique, Lothair Bluteau. Dans le polygraphe, Lucie est témoin d'un suicide dans le métro. Et c'est même à cette occasion qu'elle rencontre Christophe, témoin de ce suicide, qui deviendra son amant. Le métro est redouté par Laura Cadieux qui craint d'emprunter l'escalier roulant. Et son fils s'y perd presque, elle le retrouve heureusement. Dans le métro où les conversations privées se tiennent debout et sont entendues de tous, surtout au cellulaire, noces de papier. Tout le contraire du huis clos que forme l'automobile où sont assis confortablement les passagers. Que le métro soit positivement connecté et une occasion de rire est très exceptionnelle. Il était une fois dans l'Est. Bref, le métro est un monde souterrain, plus associé aux enfers qu'au mouvement. C'est signé André Fortin, qui vient de l'autre journal, un autre de nos merveilleux journaux gratuits.
Voici la toute nouvelle chronique Impasse mexicaine. L'impasse mexicaine, ou Mexican Standoff en anglais, est stricto sensu une situation avec au moins trois individus se menaçant mutuellement. Aucun n'a intérêt à attaquer le premier, car même s'il arrive à éliminer un de ses opposants, il s'expose trop à l'autre. La stratégie gagnante consiste à attendre qu'un autre agisse, bloquant ainsi toute action. Mais voilà que Aube a décidé de passer à l'action avec cette nouvelle chronique où nous allons laisser la parole à un animateur ou un réalisateur d'une autre émission en lien avec notre propre thématique d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je rencontre Alexandre Coupal de l'émission Une fois, c'est une rue.
Ben, d'abord, le titre de l'émission, Philippe, c'est Une fois, c'est une rue.
Ouais.
On a, avec Mathieu Damour, qui est le concepteur, le co-concepteur de l'émission, on cherchait une façon, un prétexte de construire un magazine. On s'est un peu inspiré. Peut-être connais-tu, vous connaissez-vous, Histoire d'objet qui a roulé à la radio de Radio-Canada un certain temps. Le concept, c'était ils prennent un objet, puis ils font une émission autour de ça. C'est pas une émission que je connais bien, là. Remarque, je sais pas si ça, comment ça sonnait vraiment. Mais on aimait cette idée-là, de partir avec quelque chose, puis et de construire à partir. Et l'idée, c'est Mathieu qui a eu l'idée des rues. Et là, on s'est aperçu que non seulement c'était un bon prétexte, mais qu'il y avait plein de choses à faire.
Ouais, c'est fast.
Il y a exactement.
Beaucoup d'infos.
Alors, parfois, dans l'émission, on est carrément dans la rue, que ce soit dans un commerce qui est là depuis longtemps, une institution, vraiment quelque chose là, qui a réellement pignon. Et d'autres fois, on est ailleurs, on est dans le ludique, on est dans la thématique. C'est vraiment le mot-clé, c'est prétexte. Et on essaie, hein, parce que ça peut aller dans toutes les directions, on essaie de construire une émission de radio à partir de ça. Une émission qui est surtout... Qui est surtout animé par des chroniques là. C'est surtout des amis. On est tous un peu du milieu des communications. Fait que c'est une façon aussi de se réunir puis de faire ce qu'on aime le plus faire. Mais il y a pas d'architecte ou d'urbaniste, je devrais dire, dans le groupe. Moi, je suis un gars assez urbain là. J'aime la ville. mais c'est pas une passion. Là, j'étudie pas les trottoirs puis le degré de bitume dans l'asphalte.
Concrètement, donnez un exemple. La semaine passée, vous parliez de Sainte-Catherine-Saint-Laurent.
Je peux te parler. Ouais, la semaine passée, on a fait la rue Prince-Arthur.
Okay.
Et tu vois, tout est là. On a reçu un des membres de la coopérative du Café Campus. Parce que le Café Campus, c'est pas juste un bar qui marche et qui, depuis longtemps, que tu as sûrement fréquenté ou tu as sûrement viré quelques brosses.
Quelques-unes.
Moi aussi, ma petite sœur aussi, mon cousin qui est 10 ans plus vieux aussi. C'est
génération en génération. C'est ça. Bref, c'est une institution.
Exactement. Et non seulement c'est une institution en termes de débit de boisson, mais c'est une coopérative, c'est un modèle d'affaires qui est unique. Et c'est une institution, c'est ça, de la rue Prince-Arthur. Alors, tu vois, là, on peut pas être plus pignon sur rue que ça. Et sinon, il y a mon bon ami Alexandre Gascon, qui est un maniaque de tennis. Écoute, c'est même pas un prétexte. Là, ça donne que c'est le US Open en ce moment. Mais c'est même pas important. Et lui, tu vois, il a décidé de nous parler de Arthur Ashe, qui a été un grand, grand joueur de tennis américain, dont le court principal à Flushing Meadows porte le nom. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et si on n'était pas en plein US Open, ce serait pas grave. Remarque, le prétexte, c'est Arthur, la rue Prince Arthur.
D'accord. Donc, on part.
Et c'est ça, tout à fait. Et Olivier Pellerin nous a fait... Les princes méconnus. Et ça, c'est niaiseux parce que c'est le genre de choses qu'on ferait jamais, mais il y a quelque chose là qui est tout à fait magazine, qui est tout à fait... on n'a pas besoin de raison pour s'intéresser à la monarchie, qu'elle soit d'aujourd'hui ou d'hier, et de ce qu'on, des segments ou des pans qu'on n'en connaît pas beaucoup.
Okay.
Donc, grâce au prétexte de la rue Prince-Arthur, on peut se permettre de parler de ça.
Excellent. Un autre prétexte? Qui te vient en tête comme ça dernièrement?
Cette année, on va faire davantage, parce que c'est la deuxième saison, et cette année, on veut faire davantage des émissions thématiques. On en avait fait quelques-unes l'an passé, entre autres pour le temps des fêtes. On avait fait la 5e rue, c'est-à-dire la 34e rue. Clin d'œil au film Miracle sur la 34e avenue, je pense. Mais il n'y a pas ça une 34e avenue à Montréal, mais on twiste un peu la réalité pour servir notre intérêt. Cette année, il va y en avoir d'autres comme ça. On va faire la rue des Érables, entre autres, dans le temps des sucres. On va faire l'avenue des Canadiens, qui n'est pas une rue, vraiment. Là, c'est un coin de rue
du
Centre Bell.
Okay.
Mais ça va être un prétexte pour faire une émission soit sur le Canadien ou le hockey. Ça va coïncider avec le début de la saison.
Est-ce que parfois, vous déterrez des mystères, justement? Pourquoi tel nom de rue? Pourquoi tel...
Ça arrive des fois qu'on dit des affaires intelligentes, puis qu'on trouve une explication ou qu'on s'aide à comprendre quelque chose. Là, je serais embêté de donner un exemple, mais c'est arrivé, oui.
Ah oui, c'est
mais écoute, à chaque émission, on fait un tout petit segment de toponymie, vraiment, là, avec de l'information facile à trouver. Des fois, tu sais ça, des fois, c'est pas compliqué. Hein. Des fois, la réponse, elle est pas très loin, c'est juste qu'on le sait pas. Mais j'ai pas, malheureusement, d'exemple précis à te donner. Faudrait écouter l'émission.
Ben oui.
C'est ma façon de vous donner envie d'agacer l'auditoire.
Vous êtes rendu à votre deuxième saison, donc vous avez quand même, 54 émissions déjà de bâtir.
On a une quarantaine l'année dernière. Là, on en a deux de fait cette année.
Donc, tout ça, c'est en balado. C'est disponible si on veut écouter les archives.
Il y a via le site de CIBL, sur la page d'une fois, c'est une rue. Tout est là. Puis, on existe également sur Facebook, sur Twitter. Et souvent, on découpe des segments.
Okay.
Alors, si vous voulez y aller, commencez tranquillement. C'est possible de le faire.
Petite cuillère.
Ouais.
L'exemple par rapport à New York, est-ce qu'il y a d'autres villes du Québec ou c'est vraiment principalement de Montréal?
Absolument pas. C'est toujours Montréal. Ça, c'est une exception. C'est la semaine prochaine, je pense, on va faire la 5e avenue.
Okay.
D'où ma confusion tout à l'heure. Justement, émission thématique sur New York. Il n'y a pas d'autre raison.
C'est un autre prétexte.
La 5e avenue, c'est une rue qui est mondialement célèbre à New York. Mm-hmm. Alors, c'est pas plus compliqué que ça.
Saviez-vous que lorsque vous laissez tourner votre moteur de voiture alors que vous ne roulez pas, ce n'est pas seulement l'environnement que vous détériorez, mais également votre moteur? Un moteur qui tourne au ralenti consomme en moyenne 2 litres d'essence par heure. 10 minutes par jour vous font gaspiller plus de 100 litres d'essence dans une année. De plus, un moteur qui tourne pour rien ne fonctionne pas à sa température optimale. Et comme le carburant ne brûle pas complètement, des pièces s'encrassent et s'usent prématurément, l'huile se contamine plus vite et la consommation d'essence augmente. Un règlement existe dans la majorité des grandes villes. Et puisque le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre relié au changement climatique, nous devons limiter le plus possible la marche au ralenti. Arrêtez le véhicule lorsque vous vous immobilisez plus de 10 secondes et que vous n'êtes pas en circulation. Un moteur consomme plus de carburant lorsqu'il est au ralenti que lorsqu'il démarre. Et il ne suffit que de 30 secondes en hiver pour que le moteur soit prêt. Vous n'avez qu'à éviter les accélérations trop rapides durant les premiers kilomètres. Et habillez-vous en hiver. Et surtout, évitez d'utiliser un démarreur à distance. Vous serez moins frileux et moins enclin à vouloir réchauffer l'auto.
Texte tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration, Maude Campeau.
Les transports sont pour moi toujours un moyen d'apprécier l'étendue de l'éclectisme que la génétique et ses erreurs sont capables de produire. Et ce, à une vitesse plus qu'aberrante. Coincée dans un espace confiné, l'humanité ne peut qu'exprimer les pires travers de sa nature. Le juron passe parfaitement, ainsi que l'instinct primaire de contestation misérable de l'autorité. Misérable, j'entends par là les incivilités rébarbatives que seule l'enfance d'esprit peut pousser à produire. Mais passons. Le transport n'est pas seulement un bouillon de culture parfaitement instructif pour tout être doté un tant soit peu de sens critique, mais surtout un moyen fabuleux de maîtriser l'espace. La marche fut le premier des transports, si l'on passe les transports amoureux qui briseraient les montagnes. Marcher est le symbole de notre humanité en plein. Nous sommes la verticalité assurée dans l'univers horizontal. Nous complétons cette fabuleuse maîtrise de l'espace en usant du vol, de la roue et peut-être un jour plierons-nous l'espace d'un simple claquement de doigts. Se transporter de plus en plus vite, de plus en plus loin, marque l'homme dans son âme et je pense le renvoie malheureusement aux premiers états de sa nature. Lui qui s'amusa les siècles derniers à se sédentariser, redevient nomade du dimanche en usant du train et de l'aéroplane. Que devons-nous tirer d'une telle constatation ? L'homme régresse-t-il ? Se retranche-t-il dans les zones les plus caverneuses de ses gènes ? Ou ne supporte-t-il plus au contraire la limitation anguleuse des pierres de sa maison pour devenir maître non plus de ses terres mais de la terre entière, empereur d'une journée dans le ciel azuré sur des pays inconnus. Gardons cependant à l'esprit que le transport n'est que l'illusion de la maîtrise de notre locomotion. Les seuls mouvements que l'homme soit en mesure de maîtriser sont ceux de son cœur et de son esprit. L'espace vient ensuite comme rattaché à ses formes essentielles.
h 45, Montréal. J'enfourche mon vélo. Il fait doux. Le soleil est radieux et étonnamment chaud pour cette période de l'année. Je profite de ces derniers instants de pure adrénaline que me procure ma bécane. Le métro attendra. La piste cyclable est tapissée de feuilles mortes. C'est étrange qu'elle soit si belle, si colorée alors que la vie s'en est retirée. Comme quand j'étais enfant, j'y roule et je m'enivre du parfum qu'elle exhale pendant qu'elle craque sous mes roues. Ça me rappelle les balades en forêt, les croustades aux pommes de ma mère, les citrouilles, les feux de feuilles dans la cour. J'adore l'automne. Ce matin, le parc La Fontaine est magnifique. Un rayon de soleil caresse mon visage. Encore un petit bonheur qui passe. Et voilà que mon cœur se gonfle de joie et que tous mes soucis en sont réduits à néant. Rien d'autre n'existe. Je ressens un profond sentiment de bien-être, de paix, de compréhension aussi. Le bonheur est ici, maintenant. Inutile de le chercher ailleurs. Si vous habitez Montréal et que vous étiez debout à 7 heures ce matin, vous avez certainement été témoin de la brume qui enveloppait la ville. Je suis sortie sur mon balcon, émerveillée, m'imprégnant de son silence et de son aura. Avez-vous pris le temps de vous arrêter, de vous gaver de sa beauté? Si le bonheur que l'on cherche tant se trouve dans le moment présent, devons-nous apprendre à nous arrêter pour l'accueillir et le savourer? Nous croyons souvent à tort que nous manquons de temps, mais toutes les activités qui noircissent les pages de notre agenda sont-elles vraiment nécessaires? En retirons-nous seulement une vague satisfaction, une impression de devoir accompli? ou nous procure-t-elle réellement un sentiment de bonheur? J'ai connu la sensation étouffante du temps qui file à vive allure, embourbée dans des responsabilités inutilement inventées, prise dans le tourbillon des invitations acceptées d'emblée par peur de dire non, des événements qu'on ne doit supposément pas manquer et qui servent finalement à fabriquer des souvenirs. On dit oui à tout ce qui est offert sans réfléchir à nos véritables désirs. S'occuper, pour oublier, pour faire taire l'angoisse de la solitude, effrayé de se retrouver seul avec soi-même. Aujourd'hui, je cherche avidement chaque instant d'oisiveté. J'adore être assise en silence, à ne rien faire, sinon laisser un rayon de soleil me caresser le bout du nez. J'aspire à travailler moins, à avoir plus de temps consacré à ce qui est vraiment important à mes yeux, à ce qui me fait vibrer, à ces petits bonheurs qui font partie de ma réalité. Et à ces étincelles de joie qui surgissent uniquement dans le ici et maintenant, pour peu que nous puissions nous arrêter pour les savourer pleinement.
C'était Petit bonheur d'automne ou l'art de savourer l'instant, écrit par Julie Bouchard, adaptation et narration de Marie-Claude Tardy. C'est ce qui conclut le 14e épisode de Aube.
Toutes nos émissions sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via iTunes, laplumedefeu.com et via SoundCloud.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci car chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez 2 secondes pour nous offrir vos commentaires ou si vous connaissez un petit sentier dans Babylone qui mène vers un petit endroit à découvrir, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Aurélie Suberchico, Sophie-Claudia Ouellette, Maude Campeau, Jean-Baptiste Gardarin, Frère Ours, Anne-Sophie Carpentier, Annie Schneider et Marie-Claude Tardy.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.